France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, mouvement MeToo et Balance ton porc. Messieurs, qu'en pensez-vous? Ce soir, chers auditeurs, on vous donne la parole sur France Inter à l'issue d'une semaine marquée par de nouvelles accusations contre un ministre du gouvernement. Et après la publication, il y a une dizaine de jours, d'une tribune signée par des hommes qui se disent solidaires. C'est ainsi qu'ils se sont présentés dans les colonnes du journal Le Monde. Des hommes qui estiment venu le temps de s'engager publiquement aux côtés des femmes. Des hommes qui tiennent à dire que toute la gente masculine n'est pas composée de harceleurs, d'agresseurs ou de violeurs, un des signataires de ce texte. Le docteur Gilles Lazimi est avec nous ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Lazimi. Vous êtes médecin généraliste à Romainville, en Seine-Saint-Denis, maître de conférence à la faculté Pierre et Marie Curie, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, engagé de longue date dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Avec nous également ce soir le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Ancien directeur ou toujours directeur de recherche au CNRS.
Ancien, oui.
Ancien. Vous, en tout cas, ça fait des années que vous travaillez sur les relations entre les hommes et les femmes. Je rappellerai simplement le titre de quelques-uns de vos ouvrages. Corps de femme, regard d'homme, un lit pour deux, Saint-Valentin, Saint-Valentin mon amour, et le tout dernier qui vient de paraître, L'amour qu'elle n'attendait plus, édité par Hugo et compagnie, c'est bien ça?
C'est ça.
Alors n'hésitez pas en tout cas à nous appeler, que la libération de la parole des femmes vous ait mis en colère, qu'elle vous ait réjoui ou mis mal à l'aise, qu'elle vous ait fait réfléchir, qu'elle vous ait conduit à vous remettre en question, ou même qui sait, qu'elle vous ait fragilisé ou déstabilisé. Ce soir messieurs, on se dit tout sans tabou au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel, celui de Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Alors bon, moi j'ai 48 ans et j'ai deux filles de 14 et 9 ans. Et ce mouvement là, depuis qu'il a commencé en fin de l'année dernière, représente en quelque sorte pour moi un véritable espoir, en tout cas pour... Je trouve, hein, pour nos enfants, enfin les pères de filles, on cherche, enfin moi j'éduque mes filles en leur expliquant que depuis toujours, les hommes, depuis toujours et partout, hein, les hommes décident comment les femmes doivent s'habiller, si elles doivent travailler, ce qu'elles doivent faire, et qu'aujourd'hui, ben, c'est fini, c'est terminé, que c'est très bien. Et en fait, ça, quand je dis que pour moi, ça représente exactement un espoir, c'est que j'espère qu'à l'avenir, si mes filles travaillent dans un restaurant, on n'attendra pas d'elles qu'elle porte une mini-jupe, ou on considérera plus comme naturel, par exemple, qu'elle prenne le nom de leur mari si elle se marie un jour. Et donc là, évidemment, c'est sur une question très très importante, très saillante, si j'ose dire, la question du consentement sexuel. Mais de manière générale, moi, j'espère que ce mouvement va se prolonger vers une généralisation. Et je suis d'autant plus confiant qu'autour de moi, il y a quand même un phénomène, il me semble, générationnel. Les gens de mon âge, il y a 40, 50 ans, dans leur immense majorité, les hommes, non seulement soutiennent, mais vraiment encouragent et sont contents de cette petite révolution. En revanche, il est vrai que les plus âgés, on sent quelque part que ça coince, et la génération des gens, bon, je ne sais pas, peut-être les gens de 1968 ou d'avant, pour eux, c'est plus difficile. Mais en tout cas,
ça veut dire, Pierre, pardon, que vous avez entendu chez des personnes plus âgées que vous des réflexions, des doutes,
oui,
sur ce qui se passe.
Oui, par exemple, des exemples très simples. Hein, quand il y a eu une polémique sur Asia Argento parce que elle a eu, elle n'était pas irréprochable soi-disant. Donc, comment elle s'autorise à se présenter comme une victime alors qu'elle-même a eu quand même des relations consenties, même si c'était non désiré, avec ce producteur américain. Donc il y avait il y a encore une réticence chez des gens qui considèrent, enfin, qui sont toujours en train de mettre en doute la légitimité de la parole de la victime. Et bon, ça c'est un exemple, hein, mais je vois autour de moi que à chaque fois qu'il y a un pas de plus franchi dans ces mouvements comme MeToo ou Balance ton porc, chez les gens plus âgés, en tout cas autour de moi, et pas tous, hein, faut pas généraliser, mais je sens beaucoup plus de réticence que chez les gens qui ont 40 ou 50 ans, la génération en tout cas juste d'avant.
Merci beaucoup Pierre pour cette entrée en matière. Qui veut réagir? Peut-être Jean-Claude Kaufmann. Je vous pose la question parce que vous avez souligné, vous, qu'il y avait une sorte de désarroi chez certains hommes par rapport à ce qui se passe, même si ce ne sont pas forcément les plus nombreux.
Vous me donnez trois quarts d'heure pour répondre, parce que d'abord le mouvement MeToo, j'allais dire, on est tous d'accord, mais beaucoup, même ceux qui sont un petit peu réticents, sont quand même d'accord. C'est un coup de tonnerre d'un seul coup qui crée un moment de surprise, parce qu'on se dit mais bon sang, bonsoir, c'était donc comme ça, mais c'est encore comme ça. Il y a ces problèmes. Oui, il y a des problèmes d'inégalité manifeste, alors que dans les esprits, il y a beaucoup de personnes, même dans les générations anciennes, qui sont pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais il se trouve qu'on n'y est pas à l'égalité. Il y a des choses qui sont connues, l'écart de salaire, par exemple, mais il y a des petites choses qui coincent encore plus.
Vous qui êtes sociologue et qui travaillez sur tous ces sujets, est-ce que vous êtes surpris de ce qui se passe ?
Non, parce que moi, ça fait longtemps que je dis qu'il y a deux points qui font vraiment blocage. Il y a le partage des tâches ménagères, qui n'est pas une petite question du tout. On en a parlé récemment avec la charge mentale, etc. Et il y a le rapport à la sexualité. Et là, c'était la révélation. On découvre un monde qui est surprenant, inégalitaire, fait de violence, de domination, etc. Donc, c'est un moment important que nous sommes en train de vivre.
Gilles Lazimi, vous partagez ce point de vue ?
Oui, je partage ce point de vue mais je veux quand même être un petit peu optimiste parce qu'on avance clairement. Hein. On a beaucoup avancé. Mais sur la question des violences, pas tellement. Et quand on voit les chiffres de la dernière étude Virage, on a quand même 90 000 viols ou tentatives de viol dans l'année qui s'est déroulée. Et on a plus de 500 000 agressions sexuelles. Donc manifestement, là il y a un problème. Il y a un problème de droit, il y a un problème de parole. Et à travers ce mouvement, et à travers les réactions que ça provoque, on voit qu'à chaque fois, on remet en question systématiquement la parole des victimes. Et ça, c'est absolument insupportable. Donc là, le droit doit s'appliquer, la parole des victimes doit être reconnue. Et moi, je suis très très heureux d'entendre tous ces hommes et d'avoir autant de signataires à cette pétition, car la majorité des hommes, les 9 dixièmes des hommes, ne sont pas violents, ça c'est important. Mais il va falloir qu'ils s'activent, et il va falloir qu'on s'active tous, pour ne plus tolérer de la part de nos frères, de nos amis, de nos cousins, de nos collègues, les propos, les agressions qu'ils font subir encore aux femmes.
C'était important pour vous de signer cette tribune pour dire oui, nous aussi on est de la partie et on participe à tout ça.
C'était très très important, je l'attendais parce qu'il fallait laisser le temps quand même à cette parole et il était important que nous nous engagions car c'est notre combat et nous avons tout à gagner et on va changer les relations hommes-femmes et c'est très important pour nos enfants, pour nos filles et puis pour notre société. Qu'enfin, on arrive à une égalité.
Qu'est-ce que vous dites, docteur Lazimi, à ceux qui pourraient se sentir atteints dans leur virilité avec tout ce qui se passe ?
Mais là, je ne comprends pas. En tous les cas, il faut qu'ils se questionnent, il faut qu'ils réfléchissent à l'éducation qu'on a subie, aux stéréotypes, à toute cette culture du viol, et leur dire clairement, il n'y a pas plus beau qu'une relation amoureuse désirée conjointement, il n'y a pas plus beau qu'une relation avec une femme qui vous désire et que vous désirez, et que vous respectez, qui vous respecte. Il n'y a pas plus beau. La virilité, c'est de la domination. Il n'y a pas, quand on entend on va perdre la séduction, on ne va pas perdre la séduction. La séduction, c'est comme le jeu de la séduction, il y a des règles. Et ces règles, elles nécessitent le consentement de la femme et de l'homme.
Elles sont à revoir, ces règles, Jean-Claude Kaufmann, sur lesquelles vous avez...
Alors, c'est pas des règles qu'on peut écrire qui sont très... Par exemple, la question du consentement. Alors là aussi, ça avance très vite, effectivement. On comprend des nouvelles choses, mais des fois, c'est compliqué, le consentement. Il y a ce qu'on appelle la zone grise, dans les relations intimes, où parfois, l'homme ne comprend pas que la femme a manifesté son refus. Mais la femme n'a pas osé dire non. Elle n'a pas osé dire non, parfois parce qu'elle est sous emprise, parfois parce qu'elle ne sait pas exactement où elle en est dans la relation. Donc elle repousse un petit peu à plus tard. Et on dit, mais est-ce qu'il y avait consentement ou pas ? Souvent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il va falloir avancer ensemble, surtout pas de guerre des hommes contre les femmes, tous en bloc. Ça, ce serait le pire et on n'avancerait pas. C'est tous ensemble qu'il faut qu'on avance vers une nouvelle définition des rapports amoureux, dans le respect mutuel. Mais là, tout le monde va devoir clarifier des choses, pas seulement les hommes, il y a un effort très important à faire du côté des femmes aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut que les hommes rentrent dans la danse. Parce que oui, il y a des hommes qui sont un peu atteints dans leur virilité. C'est pas défendable. Ils sont dans une impasse. Il faut les aider à évoluer différemment. Mais il y a une autre catégorie d'hommes. C'est des hommes que l'on définit comme des hommes gentils, qui ont cru répondre aux demandes des femmes pour être à l'écoute, communicants, respectueux, et qui ont des petits problèmes avec les femmes. Notamment dans la drague, je dirais, non pas chercher un partenaire pour la vie, mais un partenaire d'un soir, ils se font passer devant par des hommes un petit peu plus machos, et les femmes réclament des vrais hommes pour des rencontres un peu rapides d'un soir. Alors là, du coup, il va aussi falloir clarifier des choses du côté des femmes, parce que ça, c'est une demande de manifestation de virilité, quoi, d'une certaine manière. Donc, on est à un moment extrêmement important, qui est passionnant. Va falloir, dans l'avenir, redéfinir un petit peu ces relations intimes entre hommes et femmes.
Voilà, et on va en poursuivre notre discussion en allant au Standard de France Inter. Cette fois, c'est Didier qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Didier, bienvenue à vous.
Oui, bonsoir. Je voulais témoigner que dans mon couple, c'est ma compagne qui avait un bien plus gros salaire que moi. C'est moi qui ai arrêté ma carrière pour élever les enfants. C'est moi qui m'occupais de la maison, du linge sale, de la lessive. C'est moi qui avais la charge mentale. Et c'est même moi qui me retrouve tout seul parce qu'elle m'a quitté. Et tous ces derniers temps, j'étais extrêmement triste qu'elle m'ait quitté, bien sûr, mais aussi d'entendre certains mouvements féministes mettre vraiment tous les hommes dans le même panier. Alors, je suis tout à fait d'accord, hein. il y a des bouffes, il y a des gros cons, il y a des salauds, mais il y en a des très bien. Hein. Et donc, sur votre antenne, j'ai entendu un mouvement féministe qui disait, bon, lui, il n'a rien fait, mais il savait. Et puis, s'il ne savait pas, c'est un homme. Et donc, je trouve ça très triste que certains mouvements, pour des buts idéologiques, essayent de monter les hommes contre les femmes. Voilà, ça m'a beaucoup attristé.
Merci Didier pour cet appel,
oui,
Jean-Claude Kaufmann.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. Là. Il faut, pour qu'on avance, il faut que tout le monde soit à l'aise. Il ne faut pas qu'on soit dans un climat de guerre, de suspicion. Et surtout, en mettant tous les hommes dans le même sac, il y a une majorité d'hommes aujourd'hui qui veulent avancer dans le bon sens. Une très très large, une écrasante majorité. Effectivement, je trouve qu'il y a une responsabilité d'un tout petit groupe de féministes. Ce n'est pas tous les féministes là encore, mais de groupes de féministes qui sont dans une logique de guerre des hommes contre les femmes. Quand il y a eu une première page du journal Le Parisien, mettant sur cette première page des hommes qui soutenaient...
C'est la première initiative du genre.
Première initiative, hein, ouais, qui soutenait le mouvement MeToo, eh bien, il y a quelques groupements féministes qui ont dénoncé ces hommes qui, encore une fois, se mettaient en avant. Si on fonctionne comme ça, on ne va pas avancer. C'est extrêmement important de ne pas partir d'une défiance systématique vis-à-vis des hommes. Et par contre, quand il y a un acte quelconque, de dénoncer jusqu'au bout, d'aider les femmes à s'exprimer, qu'elles soient soutenues par les associations, par la justice, etc. Mais n'essayons pas de développer une suspicion généralisée vis-à-vis des hommes.
Docteur Lazimi.
Oui, juste rappeler, féministe, ça veut dire, je m'affirme féministe, ça veut dire être pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette égalité, même si elle avance, n'est pas encore réellement présente, et elle n'est pas présente dans le travail, vous l'avez dit, à la maison et dans les relations amoureuses. Donc, c'est pas soulever le problème et dire qu'il y a 500 000 femmes qui sont agressées sexuellement dans l'année passée, c'est pas dire que c'est les femmes contre les hommes. C'est dire on a un problème majeur et il faut ensemble qu'on le règle. Je suis désolé, là on est obligé de dénoncer les agresseurs. Et il se trouve que les agresseurs, dans 9 cas sur 10, sont des hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit que tous les hommes, bien entendu, il est hors de question, c'est ce que j'ai dit, 90% des hommes ne sont pas violents. Mais on a besoin de ces hommes, réellement, pour aussi être des appuis et pour changer les discours sur les femmes, sur la séduction, sur la passivité des femmes, sur la virilité des hommes. Il faut réellement qu'on dise on peut être un homme, et avoir une relation formidable avec une femme dans l'égalité et dans le partage des tâches et dans le partage des salaires. Et réellement, il faut qu'on bouge tous ensemble. Et C'est vrai, il faut aussi qu'on éduque nos garçons d'une autre façon, hein. Clairement, c'est pas les filles à qui il faut dire de ne pas faire, mais c'est aux garçons qu'il faut vraiment éduquer pour que, clairement, ils appréhendent la sexualité autrement et qu'ils ne pensent pas systématiquement qu'une femme, quand elle dit non, ça veut dire oui, ou qu'une femme, c'est quelqu'un de passif, ou que ils ont le pouvoir. C'est vraiment séduire, c'est plaire. C'est pas agresser.
Mais quand une femme dit non, l'homme qui pense que c'est oui, il faut voir que très souvent, il y a une incompréhension du côté homme et du côté femme.
Parlons-en, on peut en parler.
Oui, il y a des femmes qui se sentent en situation elles ont une difficulté à dire non, à exprimer leur refus de la relation, pour différentes raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, et elles envoient des signaux négatifs. Et pour elles, elles sont persuadées qu'elles ont dit non. Mais l'homme n'a pas perçu qu'elles ont dit non. Et ça, il faut en discuter, parce qu'il faut que l'homme apprennent à percevoir ces signaux négatifs. Et il faut que les femmes disent plus ouvertement, parce qu'il faut qu'elles comprennent que l'homme, parfois, ne comprend pas qu'elles veulent dire non.
Gilles Lazimi, vous répondez à Jean-Claude Kaufmann, et après on repart au standard.
Tout à fait, mais la parole, c'est quand même essentiel. Poser la question du consentement, dire à une femme, est-ce que tu veux qu'ensemble on fasse un petit parcours? Est-ce que tu es d'accord pour avoir une relation? C'est très simple. Eh ben ça, il faut qu'on y arrive, et on y arrivera en expliquant aux garçons et aux filles que c'est possible de dire.
Une toute dernière question avant d'aller au standard, Gilles Lazimi. Il vous arrive d'être confronté à des hommes violents? Je crois que vous avez même participé à la mise en place de campagnes.
Alors, je travaille surtout avec des femmes victimes et pas avec des hommes violents. Mais on a mis en place des campagnes.
Des campagnes qui s'adressent aux hommes violents.
Tout à fait. C'était il y a plus de 15 ans. Les premières campagnes qu'on a mises en place, on les a mises en place avec une cible, les hommes. Pas les femmes, parce que les femmes victimes de violences, on leur rajoutait une couche en leur disant à chaque fois « Téléphonez avant qu'il ne soit trop tard et c'est de votre faute si vous restez ». Donc il était clair que ça suffisait de cibler les femmes et qu'il fallait parler aux hommes. Et donc on a mis des hommes en photo avec des messages de prévention exprès pour dire aux hommes « Mon Dieu, vous avez un rôle à jouer envers votre collègue, votre frère, votre cousin, votre voisin. Vous pouvez jouer ce rôle et c'est vous seul qui aiderez pour faire changer les choses. Ne remettons pas en question les femmes, ne remettons pas en question leurs paroles comme on est en train encore de le faire quand elles expriment des violences. Et occupons-nous des hommes, clairement, pour changer. Et un grand nombre d'hommes sont en capacité de faire changer les autres. Et si on cesse de tolérer les plaisanteries graveleuses, les agressions, les sifflements, eh ben, je pense que ça bougera, et ça bougera avec les femmes.
Allez, on repart au standard cette fois-ci.
Le 18-20, Claire Servageant, le téléphone sonne.
Roger est en ligne de Strasbourg. Bonsoir Roger, bienvenue à vous.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi j'étais sensible c'est une petite chose, mais qui m'a fait réagir dans le bon sens. C'était une intervention d'Alexandra Lamy, et c'était au début de l'affaire Weinstein. Tout s'est mis en branle, balance ton porc, etc. Tout ça. Et elle a dit un truc que j'ai trouvé très pertinent, et qui montrait qu'elle avait une sensibilité par rapport à la psychologie masculine, je dirais. Elle a dit, s'il vous plaît, messieurs, que tout ça ne vous empêche pas de nous draguer. S'il vous plaît, continuez à nous draguer. On aime ça, on a besoin de ça. Simplement que ce soit fait dans le respect, avec sensibilité, etc. quoi. Et je trouvais que c'était très, très pertinent et très intelligent, parce que j'avais l'impression qu'on partait dans un excès un peu. Et c'est difficile de trouver un juste milieu. Je trouve, voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Roger, pour cette intervention, Jean-Claude Kaufmann.
Oui, effectivement, Roger a tout à fait raison. Les hommes, aujourd'hui, ne sont pas très à l'aise. Hein. Beaucoup sont dans un certain désarroi. Enfin, pas exagéré, mais ils se posent des questions. Et du coup, ils vont avoir tendance à être un petit peu transparents, à éviter de prendre des initiatives. Ils vont être critiqués par les femmes. Justement sur cet aspect-là, de ne plus être des vrais hommes, entre guillemets, qui s'assurent. Dans mes enquêtes, ça revient extrêmement souvent. Il y a même pire, hein, parfois, hein, dans la drague sur Internet, de la part de certaines femmes, de rechercher pour les rencontres d'un soir ce qu'on appelle des bad boys. Hein, donc ça existe aussi. C'est pour ça qu'il faut tout mettre sur la table. Alors surtout pas de bad boys, justement. Apprendre des nouvelles relations respectueuses, mais créatives, avec des initiatives. Et il faut oser. Il faut oser à tout prix, et du côté masculin, comme du côté féminin. Non,
mais ce que j'allais vous dire, pourquoi est-ce qu'on considère toujours que c'est aux hommes de faire le premier pas? C'est culturel, ça?
C'est 2000 ans d'histoire. C'est pas du biologique, c'est 2000 ans d'histoire. C'est depuis l'amour courtois, c'est 800 ans d'histoire. Mais c'est une très très longue histoire où il y a eu un rôle masculin qui était le séducteur et la femme qui résistait. Et d'où la position de l'homme qui, des fois, ne comprend pas. Il peut penser que la résistance, c'est dans cette logique, je dirais, de pas se découvrir son désir tout de suite. Tout ça, ça laisse des traces. Tout ça, on va le changer. Tout ça, on va le changer, mais ça laisse des traces, effectivement. Et il faudrait que les femmes soient plus à l'initiative. Mais les femmes qui sont à l'initiative aujourd'hui, elles se font traiter d'un certain nombre de qualificatifs. Donc, là aussi, il va falloir changer des choses.
Mais encore une question, parce que vous êtes sociologue, vous avez étudié tout ça, c'est culturel ou pas? Est-ce que les Françaises sont dans une situation particulière ou est-ce qu'il y a des pays où les femmes osent plus?
Non, c'est plutôt le bassin méditerranéen hein, qui est dans cette logique-là. Dans les pays du Nord, c'est un petit peu moins marqué, c'est différent, mais ça reste un modèle assez mondial. Mais c'est plus marqué en France et dans les pays méditerranéens. Mais c'est un modèle mondial, c'est ce rôle de l'homme et de la femme. Ça remonte même aux premières sociétés. Hein. Les symboles de l'homme, c'est Françoise Héritier qui travaille là-dessus. C'était
elle
feu,
l'a formidablement
la guerre.
Expliqué, effectivement.
Les femmes, c'était tout le lien au liquide, etc. Il y a des rôles qui ont été construits. On s'en sort aujourd'hui à partir du principe d'égalité. Mais il faut se réinventer complètement différemment. Et c'est pas toujours simple et ça va demander du temps.
Gilles Lazuli.
Oui, la séduction ne doit surtout pas disparaître. Elle est essentielle à la vie. Elle est essentielle pour les hommes et pour les femmes. Et elle présente aucun problème si on respecte le désir de l'autre. Donc il va falloir...
Et cette fameuse liberté d'importuner qu'ont revendiqué certaines signataires d'une certaine tribune, indispensable à la liberté sexuelle, c'est ce qu'elle disait.
C'est une plaisanterie, ce sont des dinosaures qui ont écrit cette tribune très clairement et qui défendent les violeurs. Très clairement. Bon. On ne peut pas importuner quelqu'un sans son consentement. Donc, bien sûr, on peut tenter de plaire. C'est ça, la séduction, tenter de plaire. Mais si on agresse, eh ben, c'est déplaire. Et là, ça peut être une violence. Et donc, il faut respecter le droit de chacun d'être importuné ou pas.
On repart au standard du téléphone sonne. Patrick nous appelle de la Drôme. Bonsoir, Patrick.
Oui, bonsoir. Moi, si vous voulez, je vois mal comment on peut s'en sortir si on parle de cette notion d'échange entre hommes et femmes, dans le sens que le modèle mondial, d'ailleurs on le voit pour le mouvement donc féminin, il est mondial. Et c'est pas étonnant parce que les modèles qu'on a de dirigeants, par exemple, du monde, c'est la virilité. C'est Trump, c'est Poutine, etc., ces gens-là. Et la seule manière de s'en sortir, quelque part, c'est que chaque homme développe sa féminité. Et ça je crois que c'est un gros mot, mais il me semble qu'on peut s'en sortir en développant notre féminité. Sinon, on aura énormément de mal, on restera toujours ça. Et moi, je suis pas tellement d'accord avec le sociologue, dans le sens que ça n'a pas toujours été comme ça, sans doute, dans le sens que c'est sûrement la sédentarité et le néolithique qui a amené ça, je veux dire, la domination de l'homme. Et je pense qu'on a un gros travail à faire de maîtrise de notre féminité. Je crois que c'est important. Et on l'a pas ni dans l'éducation, on l'a nulle part. Et tous les modèles, même les modèles d'industrie, par exemple, les modèles d'industrie, c'est le gros macho qui s'en sort, qui détruit son voisin, etc. Et on a toujours des expressions, par exemple, celui-là, il a des couilles, je suis désolé de dire ça, mais il a des couilles, ou celui-là...
Ne vous inquiétez pas, on est entre nous ce soir.
Voilà, et celui qui est la guerre des boutons, hein, le chef, c'est le plus gros zizi. Voilà, et on est quand même sous-jacent à tout ça, on baigne là-dedans.
Alors,
et je sens, moi, qu'il y a une manière peut-être de s'en sortir, c'est de développer notre côté féminin qui a pas été développé jusqu'à présent.
Voilà. Merci Patrick de la Drôme. Qui veut lui répondre? Jean-Claude Kaufmann.
Oui, parce qu'il m'a
il vous a mis en cause.
Apostrophé gentiment. Donc Là, je suis en désaccord avec son désaccord.
Votre virilité réagit, là, vous êtes attaqué dans votre masculinité.
Ça a presque toujours été comme ça. Même les sociétés matriarcales dont on parle, en fait, n'ont jamais existé. C'était des sociétés matrilinéaires où les femmes avaient le pouvoir à partir de la famille et de la maison. Donc, il y a presque toujours eu ce jeu de rôle avec les hommes dans des positions de domination, mais avec des variations historiques et avec des hauts et des bas. Par exemple, le 19e siècle a réinstauré ce jeu de rôle de manière très forte. Et ensuite, la Belle Époque, au contraire, c'est un moment d'émancipation. Mais dans l'entre-deux-guerres, on revient au jeu de rôle après les années 20, qui était un moment le début des années 20, qui était un moment des... Donc ça bouge. Mais là, depuis les années 60 et 70, là, on est rentré dans normalement une trajectoire d'émancipation qu'on espère définitive autour de... Moi, je ne dirais pas que les hommes découvrent leur part de féminité. Je dirais que l'on devienne des personnes avant tout. Être d'abord une personne homme et une personne femme, mais qui invente sa manière d'être homme ou femme un petit peu à sa manière et dans le respect mutuel.
Docteur Lazimi, notre part de féminité. Votre oui, part de féminité.
C'est le partage, je vais dire, c'est le partage du pouvoir. Il faut qu'on arrive à penser la femme comme égale de l'homme. Et je crois que ça va être la seule possibilité. Il faut qu'on arrive aussi à éduquer nos enfants autrement. Et je me souviens d'un film de Patrick Jean, La domination masculine, qui est absolument remarquable. Moi qui me pensais militant féministe depuis des années, je vois ce film et je remarque à quel point on va apprendre à nos enfants et on va les conditionner dans des rôles et dans des attitudes qui font que ça ne va pas aider plus tard. Hein. La robe de princesse, les jeux, y a plein. Ou alors même l'école où on va permettre aux garçons de prendre toute la place et aux filles à qui on ne va pas supporter un seul instant qu'elles puissent élever la voix. Tout ça, il faut absolument...
Cette domination masculine. Voilà. On a fait un téléphone sonne spécial là-dessus. Moi, j'ai une petite question. C'est Jean-Paul qui nous pose cette question sur Twitter. Pourquoi est-ce qu'on est à la traîne des États-Unis? Pourquoi est-ce que ce mouvement-là auquel on assiste, pourquoi est-ce qu'on est derrière les États-Unis? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Jean-Claude Kaufmann.
Non, ben c'est la manière d'exprimer les choses. Les États-Unis, toute l'Amérique du Nord, le Canada aussi, où il y a une expression plus ouverte, plus radicale, effectivement.
Un puritanisme,
France,
hein, disent certains.
Pardon.
Et puis il y a aussi le puritanisme qui est dénoncé par certaines.
Oui, c'est-à-dire qu'en France, on a peur de détruire le trésor des relations intimes, de la séduction, de l'amour, etc. Et effectivement, il faut faire un petit peu attention parce qu'il ne faut pas introduire un climat de guerre à l'intérieur des couples, dans leur rapport homme-femme, parce qu'on ne va pas avancer. C'est surtout pour ça, parce que ça va être désastreux, mais parce qu'on ne va pas avancer. Donc, on est un peu à la traîne, peut-être, mais on peut éviter aussi certains travers des États-Unis qui reposent tout sur le droit. Hein, le droit, c'est le dépôt de la plainte. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, souvent on a tendance à se ranger en deux camps. Ou bien du côté de la libération de la parole pour les femmes, ou bien du côté de la défense de la présomption d'innocence pour ceux qui sont suspectés d'avoir eu une attitude délictueuse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. Il va falloir qu'on arrive à faire les deux, à libérer la parole beaucoup plus, que les femmes soient soutenues, que les associations qui les soutiennent aient des moyens, etc. Mais en même temps, sans dérapage dans la manière un petit peu de procéder. Et ça, on le voit tous les jours.
Et ça, c'est une question qui revient sur Twitter aussi. Hein, ouais. Balance ton porc a légitimé le lynchage.
C'est difficile. Il faut qu'il y ait ces révélations. Il faut que la parole se libère. On n'a pas le choix. C'est pas un lynchage hein, qui est recherché. C'est vraiment permettre aux femmes de dire. Et quand on voit les chiffres, mais moi je reviens sur ces chiffres, 580 000 agressions sexuelles touchant les femmes dans les 12 mois qui ont précédé. Sur les viols, 90 000 viols. On me parle de guerre. On me parle de... Franchement, un un dixième des femmes portent plainte et il y a moins d'1% de condamnations. Oui,
mais là, il ne faut pas réfléchir non, de manière globale, parce que si on parle d'une agression sexuelle, d'un harcèlement caractérisé, d'un viol, que sais-je, d'un crime, surtout d'une personne qui utilise sa position de pouvoir pour faire ça. Donc là, il faut être très clair, il faut que la justice déroule. Mais lorsqu'il y a une relation où il y a un désaccord sur la définition du consentement. Parfois, c'est autour de cette zone grise où c'est très compliqué, parce que l'un pense qu'il y avait consentement et l'autre pense qu'il n'y avait pas consentement. Or, on sait que dans la société de la rumeur d'aujourd'hui et d'Internet, la moindre information qui est lancée va stigmatiser de manière très violente aussi la personne qui est visée. Donc, la parole des victimes... ou des supposées victimes.
Vous la remettez en question, là?
Non, je ne la remets pas en question. Je ne la remets pas en question. C'est tout à fait essentiel qu'elle se libère au maximum, à partir des faits. Ce qui est terrible, c'est qu'on va devoir soulever les couettes, voir comment ça s'est passé dans l'intimité des personnes, détailler les pratiques, les mots qui ont été employés pour voir... Là, on est parti pour longtemps dans ce genre de processus.
On va repartir... Gilles Lazimine.
Non, mais je pense que ce mouvement, il est essentiel et il va nous permettre de changer les relations entre les hommes et les femmes. Et c'est vraiment, il faut vraiment être avec pour vraiment faire bouger la société. Et on peut y arriver, et on peut y arriver, hommes et femmes ensemble.
On repart au Standard de France Inter et on va prendre deux appels. On va prendre Serge à Paris et on va prendre Franck également.
Bonsoir Serge. Oui, alors moi, je suis un peu agacé par le fait qu'on a l'impression que le monde est scindé en deux. D'une part, une humanité apaisée, humaniste, maternelle, etc. chez les femmes, victimes. Et de l'autre côté, des monstres sanguinaires, violeurs, harceleurs, ça. Alors moi, je vais vous dire, dans mon environnement personnel, je connais un nombre de monstrueuses bonnes femmes qui harcèlent leurs mecs, qui les viole, qui les violente, qui les frappe. Est-ce que vous imaginez un homme aller dans un commissariat dire qu'il s'est fait battre par sa femme? Ça n'existe pas. Donc la statistique, les violences des femmes faites aux hommes, elles passent sous le radar, parce que vous n'y pouvez même pas imaginer dans un contexte d'ailleurs d'une humanité très macho, hein, un homme aller voir un flic pour lui dire je viens de déposer plainte contre ma femme.
Ça existe.
Oui, non, mais sûr, ça existe. Enfin, c'est très marginal. Alors ça c'est une chose. Et par ailleurs, il y a quand même autre chose, c'est qu'il y a une supériorité que les femmes ont sur les hommes et que dont on parle jamais. D'abord, c'est elles qui font les enfants, hein, c'est elles qui décident ou non de la qualité de la relation, que ce soit sexuelle ou pas, mais en tout cas dans le foyer. C'est, voilà. On dit aussi qu'il n'y a pas de grands hommes derrière les canines des grandes femmes. On dit c'est des choses comme ça. Ça serait bien de rappeler quand même que d'une manière générale, dans l'histoire générale de l'humanité, il n'y a pas que deux blocs, hein, qui se font face et qui seraient dans une espèce de guerre civile permanente où il y a d'un côté les agresseurs, de l'autre côté les agressés.
Merci beaucoup Serge. On prendra Franck dans quelques secondes le temps de répondre à Serge. Qui veut répondre?
Je pense qu'on ne va pas être tout à fait d'accord.
Ce n'est pas un souci, mais on va accélérer parce qu'il est 54.
Donc il est carré, hein, lui, il y va à fond. Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec lui. Alors surtout, sur cette histoire de bloc, il ne faut pas renvoyer tout le monde des hommes aux suspects potentiels et il va falloir les impliquer de manière importante. Sur les violences faites aux hommes, on a quand même des chiffres, c'est quand même relativement, j'allais dire faible, c'est 10%. 10% des cas, ce qui intrigue quand même, parce qu'on n'a pas ça. Alors c'est important de dire quand même qu'on n'a pas ça du tout en tête. On n'imagine pas une femme qui frappe son homme. Donc ça existe ici, ça montre bien qu'il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même paquet et toutes les femmes dans le même paquet.
Il est hors de question de mettre tous les hommes dans le même paquet, et on l'a dit, et on le redit clairement, 9 dixièmes des hommes ne sont pas violents, ça c'est clair. Sur les études, il y a des études qui montrent très clairement 3500 hommes ont déclaré avoir été victimes de viol ou tentatives de viol dans les 12 mois précédents. 90 000 femmes. C'est des études sérieuses. Donc vraiment, il faut le savoir.
La proportion est... c'est très important.
Et deux, attention dans notre façon de nous exprimer envers les femmes. À vous écouter, Serge, on a l'impression qu'elles sont responsables de tout, les femmes.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir prendre Franck. Franck, je vous prends à condition que vous fassiez hyper court et c'est pas du tout qu'on vous en veut, mais c'est parce que la pendule est là, qui nous rappelle à l'ordre.
Oui, très bien. Bonjour. Je souhaitais savoir ce que pensent nos invités du plateau
de l'adage suivant que vivent ou subissent les 90% d'hommes non violents, selon lequel l'homme propose et la femme dispose. N'est-ce pas là le germe du mal qui est traité ce soir sur ce plateau?
Merci beaucoup Franck. Jean-Claude Kaufmann, et j'en profite parce que dans quelques jours c'est la Saint-Valentin, alors j'aimerais bien que vous nous donniez quelques conseils, alors, vous qui avez travaillé sur le sujet.
Oui, il faut savoir que l'histoire de la Saint-Valentin est très liée à l'histoire de la culture du viol, hein. C'est pour dépasser un petit peu la culture du viol. On ne connaît pas l'histoire de la Saint-Valentin, mais bon,
Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui propose et la femme qui dispose?
Oui, mais alors là, c'est toute cette histoire qu'il va falloir changer, mais ça va pas être, il faut comprendre que ça va pas être simple, c'est normal. L'histoire et tous ces stéréotypes, tous ces réflexes que l'histoire nous a inculqués, c'est pas du biologique, mais c'est très long à changer. Donc il faut qu'on le fasse, mais autant que possible dans une atmosphère un petit peu ludique, joyeuse, de désir, de plaisir. On a inventé un nouveau monde amoureux. C'est quand même extraordinaire. Et non pas, surtout, sur des stigmatisations, des généralisations et des mots un peu blessants et violents.
Gilles Lazimi, l'homme propose et la femme dispose. Et là, encore une, ça nous renvoie à cette domination masculine.
Oui, ça nous renvoie tout à fait. Et je pense qu'il faudrait changer les choses. L'homme et la femme proposent et l'homme et la femme disposent. Et c'est vrai qu'on est en train de créer un nouvel ordre amoureux. Et ça, c'est génial. Et c'est grâce aussi à ce mouvement.
Et il y a eu quelque chose de très important. Le premier auditeur qui nous a appelé tout à l'heure a dit « j'ai deux filles ». J'ai l'impression que chez les pères, notamment, qui ont des filles, la réflexion peut-être avance un peu plus vite. C'est logique, non?
C'est complètement logique. Hein, bien sûr, c'est totalement logique, parce que, surtout avec le mouvement MeToo, du coup, ils sont inquiets. Hein, c'est complètement logique, mais il ne faut pas qu'il n'y ait que les pères qui ont des filles. Il faut vraiment impliquer tout le monde. Et il faut que les femmes aident les hommes à s'impliquer dans ce mouvement-là, mais partout, même dans le couple installé. Est-ce que toutes les relations sexuelles dans le couple installé sont consenties? Je ne suis pas si sûr que ça.
Vaste question, Gilles Lazimi, vous avez 20 secondes pour conclure.
Écoutez,
à votre tour.
Ce mouvement est exceptionnel et il faut vraiment le soutenir. Et il faut vraiment soutenir les femmes victimes pour qu'on puisse changer les relations entre les hommes et les femmes dans notre société.
Un grand merci, docteur Lazimi. Un grand merci, Jean-Claude Kaufmann. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « L'amour qu'elle n'attendait plus ». C'est intéressant, effectivement, hein, sur... Ces femmes qui ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds. Oui. Vaste réflexion, je ne vais pas en dire plus. C'est la fin de ce 18-20. Merci à ceux qui m'ont aidé à le préparer. Merci à Lucille Valérie. À la technique ce soir, Ludovic Asselot, Antoine Gomez, Philippe Duclos, à la programmation musicale Djoubaka. Merci aussi aux standardistes de l'émission. Juste après le flash de 20h, les victoires de la musique à suivre sur France Inter avec Didier Varro et Leïla Kadour Boudadi en direct de la scène musicale.